à voix nue. Cette semaine, Zoé Sfès s'entretient avec Suzy Morgenstern. Ce soir, les enfants sont peut-être les seuls vrais lecteurs. Bonsoir Suzy Morgenstern.
Bonsoir Zoé.
Merci de nous accueillir à nouveau pour ce quatrième épisode d'À voix nue. Nous sommes ravis de vous retrouver. On est toujours à Paris, dans le salon où vous passez du temps quand vous êtes dans cette capitale, chez votre fille.
Oui, j'ai de la chance d'avoir un pied-à-terre à Paris chez ma fille. Oui.
Et justement, c'est important parce qu'aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle justement de ce qui vous amène souvent à Paris. Vous venez au moins une fois par an, je sais plus, pour un moment important dans l'année pour la littérature jeunesse, pour les enfants, pour les écrivains, qui est le salon de livres jeunesse de Montreuil. Vous avez ce statut de star de la littérature jeunesse. Je sais que ce mot, vous le trouvez sympathique. Vous dites que vous êtes une star une fois par an à Montreuil.
Ah oui, Montreuil, c'est j'ai jamais loupé un salon de Montreuil. Depuis maintenant, je crois, 33 ans, j'ai jamais loupé du premier au dernier. Et même quand j'étais très malade, je suis allée à Montreuil, au salon. Et c'est vrai qu'on est star, on est tous stars à Montreuil. Tout le monde signe, partout où on va, on signe nos livres. J'adore dédicacer des livres. Parce que c'est la matérialisation de tout le travail, de l'idée, du combat, de convaincre un éditeur. Et puis, on est là avec le public. Et quand les enfants viennent, ils disent, oh, j'aime. Il y a 100 livres devant moi. Et les enfants disent, mais j'ai tout lu déjà, vous n'avez rien écrit d'autre.
Ça, c'est de la joie. Il y a toute cette espèce de déferlante d'amour quand on est auteur et qu'on va dans les salons. Et à Montreuil, c'est particulièrement fort. C'est intéressant parce qu'effectivement, ça fait 30 ans. Vous avez commencé, on l'a dit, en 77 à écrire des livres. La littérature jeunesse a pris une place tout à fait différente au cours de ces 30 dernières années, me semble-t-il, grâce notamment à une maison qui a beaucoup compté dans votre vie, l'école des loisirs, qui a, me semble-t-il, un peu changé les choses sur la manière dont on écrit, sur la manière, sur les sujets dont on parle avec les enfants.
L'école des loisirs est très très important pour moi. C'est une maison royale. Quand on va dans des salons et on prend le petit déjeuner avec d'autres auteurs, tout le monde se plaint de leurs éditeurs, sauf nous. On est un clan à part à l'école des loisirs. Et surtout une longue relation avec mon éditeur Arthur Hipschmidt. C'est la tendance a été renversée parce que quand j'ai commencé, Arthur Hipschmidt a dit, ah, je peux avoir un livre américain sans payer la traduction. Et de 95% de la production, c'était importé. Et c'est complètement renversé maintenant. Je crois que maintenant, c'est 5% d'importation. Le reste, il y a eu un mouvement d'écriture pour les livres pour enfants.
Qu'est-ce qu'ils voulaient faire, justement, à l'époque, ces éditeurs-là? Qu'est-ce que vous avez eu l'impression de vivre, justement, comme moment? Parce que vous avez vraiment accompagné, et vous faites partie de ces auteurs qui écrivent en français, pas français, mais qui écrivent en français, qui ont nourri, comme ça, une ouverture et créé un engouement chez les parents aussi.
Qu'est-ce qu'on veut faire, ça?
Qu'est-ce que lui voulait faire? Qu'est-ce que eux voulaient faire à l'école des loisirs? Comment est-ce que vous avez senti ce mouvement?
À l'école des loisirs, c'est particulier parce qu'ils n'ont pas un élan éditorial. Ils travaillent selon ce qui leur arrive. Chez d'autres éditeurs, il y a des commandes. Tout à l'heure, je vais rencontrer un éditeur qui veut que je fasse quelque chose pour elle, mais ça vient d'elle et pas de moi. À l'école des loisirs, ça vient de l'auteur. Et ils publient ce qu'ils reçoivent et ce qu'ils aiment. Ils font pas de série, par exemple. Des fois, je dis à l'école des loisirs, vous faites tout pour ne pas vendre. Parce que les séries, c'est super. Ça se vend. On achète un, on achète deux, on achète trois. Mais ils pensent pas comme ça. Ils sont vraiment à part. Et ça marche. La qualité marche.
La qualité marche toujours. Vous avez dit qu'effectivement, il y a eu cette inversion. Aujourd'hui, la plupart des livres qu'on trouve en librairie jeunesse, ce sont des livres français. Comment est-ce que vous l'expliquez, justement, en 30 ans, cet intérêt et cette multiplication des auteurs jeunesse?
Est-ce que je l'explique? Est-ce que c'est vrai que c'est un phénomène, que ça a pris beaucoup, beaucoup de place? Ça marche. Ça marche. On a commencé à publier et ça marche. Je sais pas. J'ai entendu dire que Gallimard jeunesse finance Gallimard vieillesse. Comment expliquer le succès? J'ai l'impression que c'est magique. Est-ce qu'il y a une explication? Peut-être l'enfance a commencé à entrer en compte en France. Je râlais terriblement quand je suis arrivée. Les parents d'élèves, par exemple, le magazine des parents d'élèves s'appelle « Pour l'enfant, vers l'homme ». Il n'y a pas l'enfance en soi. C'est toujours un pont, aller vers Polytechnique ou concours ou bac ou à la maternelle on pense au bac et au concours en France et je râlais beaucoup mais petit à petit l'enfance a pris de l'ampleur et donc la littérature de jeunesse aussi je crois que c'est ça c'est beaucoup aidé par les salons de livres. Il y a des salons de livres partout dans des petites villes. Je vais bientôt aller au salon de livres de Villeneuve-Loubet, de Beausoleil, des petits lieux où il y a un salon de livres et toute la population vient, ils achètent des livres, ils lisent des livres. C'est formidable. Vous savez que comme je suis amoureuse de la France et comme je pense que tous ces salons, c'est la preuve de l'exception culturelle française. La France est vraiment, vraiment un pays de culture. Et ces salons de livres sont des lieux de culture. Ce qui se fait dans les salons de livres, bientôt, j'irai au printemps des livres de Grenoble, il y a des spectacles, il y a des tables rondes, il y a surtout des queues de gens qui achètent des livres. Voiron, où il y a le meilleur chocolatier de France, Chocolat Bonnat. J'ai fait une lecture dans la chocolaterie.
Ça rejoint deux de vos amours, le livre et le chocolat.
Oui, c'était inoubliable. La patronne m'a versé du chocolat chaud pendant toute ma lecture. Et il y avait tellement de monde qu'il fallait qu'on fasse deux séances.
Quelle beauté.
Et c'était un grand événement culturel. L'histoire que j'ai lue s'appelle « La punition au chocolat ».
Vous l'avez dit, alors, la France est un pays du livre, de la littérature, et en même temps, comme vous le dites, vous avez eu du mal à dire que vous étiez écrivain, parce qu'il y a un petit peu cette image d'Épinal de l'écrivain en France.
Ça me semblait gonflé. Je crois que j'ai pas dit que j'étais écrivain avant d'avoir écrit 100 livres. Mais d'abord, je voulais impressionner mon mari parce qu'il a importé une plouque qui parlait pas français et quand j'ai écrit mon premier livre, j'aurais fait un trou dans la couverture et je l'aurais porté autour de mon Chicago. Et puis, je suis allée voir Jacques. J'ai dit, tu vois, je suis écrivain, je suis un écrivain français. Et il a dit, ah, pas si vite. Quand tu aurais écrit, toi, bon livre. Et deuxième livre, je suis allée dire, oui, tu vois, non, pas si vite. Et puis, au troisième livre, il a dit, quand tu aurais écrit un très bon livre. Et alors, aux yeux de Jacques, je crois que là-haut où il est, je me demande s'il pense que je suis un écrivain. Moi, je sais que je suis un écrivain, mais j'ai du mal à le dire. Et même à m'asseoir et à vous parler comme ça, face à face, j'ai l'impression d'être une imposteur. Comme j'étais une imposteur professeur pendant presque 40 ans. Mais là, c'était vrai, j'étais une imposteur.
Vous n'êtes pas un imposteur a priori. A priori, non. Mais vous me disiez justement, lors de nos premiers entretiens, que quand vous dites que vous êtes écrivain, il y a une forme de déception parfois chez vos interlocuteurs parce que vous êtes écrivain jeunesse. Vous avez senti ça ou pas?
Ça change, mais ça a beaucoup changé avec Harry Potter.
Ah.
Ça a beaucoup changé. Elle a fait beaucoup de bien à la profession. Parce que il faut gagner de l'argent pour exister dans notre société. Nous, c'est pas un métier d'argent. Et elle a fait les deux. Elle a fait de beaux livres et elle a fait beaucoup d'argent.
Alors, je suis assez intéressée par votre regard à vous qui écrivez des livres sur celui d'autres auteurs. Parce que dans vos livres, on l'a dit, on est souvent dans la vie quotidienne, on est souvent dans des petits trucs, des grandes inspirations pour être heureux. Et vous citez beaucoup des romans de littérature jeunesse. Dans votre livre « Accroche-toi », c'est une petite fille qui apprend à sa grand-mère à lire avec justement certains grands classiques de la littérature jeunesse.
Max et les Maxi-monstres, des grands classiques. Oui.
Qu'est-ce que vous avez lu quand vous étiez petite ou vous avez fait lire à vos enfants? Parce qu'on a dit que petite, vous lisiez pas beaucoup de livres, particulièrement jeunesse en plus, il n'y en avait pas beaucoup. Qu'est-ce que vous avez fait lire? Qu'est-ce que vous aimez chez vos collègues anciens, passés, présents? Sur votre site d'ailleurs, votre site qui est une mine d'informations pour vos lecteurs, il y a une liste de livres que vous aimez.
J'ai lu les classiques anglais et américains, tout Dickens, et surtout à répétition, Les quatre filles du Dr. Mars, Little Women. C'était tellement ma famille, et Joe était mon inspiration de toute ma vie, cette fille qui voulait être écrivain, qui était écrivain. La scène la plus brute de toute la littérature, pour moi, c'est quand Amy brûle le manuscrit de sa sœur. Ah, ça, c'est, on aurait pu commettre un meurtre, c'était pire qu'un meurtre. Et ce que j'ai fait lire à mes enfants, c'est surtout les livres contemporains américains comme Judy Blume, que j'ai amené à mon éditeur et l'école des loisirs a publié ça. Et j'admire toute la famille école des loisirs, c'est-à-dire Marie-Aude Muraille, Malika Ferjouk, Marie Desplechin, Malika Ferjouk qui a écrit les livres sur les cinq sœurs. Et je lui ai téléphoné, j'ai dit, tu es une vraie salope. C'est moi, j'ai des sœurs, toi, tu n'as pas de sœurs. Moi, j'aurais dû écrire ce livre. Et il y a de très, très belles choses.
Cette vie de prix, de salon, ça vous permet aussi de rencontrer vos pères, mais aussi, effectivement, ces lecteurs, qui sont des enfants, qui sont parfois des adultes aussi, j'imagine, les parents ou des enfants devenus grands. À quel point cette relation-là avec les lecteurs, que vous encadrez beaucoup, il y a ce fameux site internet magnifique à vos couleurs, tout à fait rose, où vous parlez autant de vous que vous donnez des conseils pour être heureux. Cette relation avec les lecteurs, comment elle a évolué? Est-ce qu'elle a été importante aussi dans la manière dont vous avez continué à écrire des livres?
C'est notre chance en jeunesse. On a un vrai contact avec les lecteurs. Et les professeurs d'école et les professeurs de collège. Moi, je vais dans les classes depuis 40 ans et c'est un bonheur. Pas tous les professeurs, ne sont pas des virtuoses. Mais ma venue est une occasion de les faire bouger un peu. Et il y a des souvenirs extraordinaires dans les classes. Tu vois, j'ai écrit un livre qui s'appelle Un anniversaire en pomme de terre. Ça n'existe plus. Où des enfants vont à un anniversaire et chaque enfant amène un légume. Et la petite fille dit, mais c'est pas des cadeaux, ça. Et à la fin, ils font un pot-au-feu. Alors, je suis allée dans une maternelle où ils ont fait un pot-au-feu et on l'a mangé ensemble. Chaque livre donne une occasion d'un événement extraordinaire. Et, le fiancé de la maîtresse. La maîtresse à Moscou était habillée de sa robe de mariée. Décolleté, faisait moins 10. Elle était dans la rue à m'accueillir dans sa robe de mariée.
C'est pas vrai.
Ah oui. Il y a des choses qui se font. Je regrette de ne pas avoir gardé une trace de toutes ces magnifiques scénarios qui se sont déroulés dans les classes.
Les enfants, justement, est-ce que parfois vous êtes étonnés de la manière dont ils reçoivent vos livres? Est-ce que les lecteurs, les enfants, vous apprennent des choses sur les livres que vous n'aviez pas vus?
Oui, et même, ils m'envoient des lettres en me parlant des fautes dans les livres. Des fautes orthographes, des fautes... Il y avait deux chapitres 10 dans la sixième. Bien sûr, j'apprends des choses. Je me demande si j'apprends encore des choses. Le plus étonnant, c'était mon livre qui s'appelle L'agenda de l'apprenti écrivain, où il y a 365 jours et une idée d'écriture pour tous les jours. Mais il y avait plein de gens qui photocopiaient tout le livre en m'envoyant ce qu'ils ont écrit. Et poire que je suis, je lis les manuscrits et puis j'essaie de trouver quelque chose de constructif à dire. Certaines fois, je reçois de très bons manuscrits et j'essaie vraiment de les faire publier, ce qui ne marche pas toujours.
Ce qui marche, c'est déjà arrivé que ça marche?
Oui. Oui.
Je crois qu'il ne faut pas le dire, sinon vraiment tout le monde va continuer à vous envoyer des manuscrits.
Mais tout ce qu'on peut obtenir de mieux, c'est qu'on lise le livre. Et je suis, je vous assure, plus heureuse qu'un de mes poulains se fait publier que si c'était moi-même. En ce moment que j'écris avec ma petite fille Emma qui a 18 ans, là, je crois que je prendrais très mal que ce livre soit rejeté. Il faut qu'elle s'investisse tellement. Et quand c'est moi, et on sait que c'est les règles du jeu, je viens d'avoir un grand rejet d'un manuscrit que j'adore. Ça fait rien. Mais pour Emma, oh là là, je prendrai mal si c'est pas pris.
Dans plusieurs interviews, vous dites que on se plaint beaucoup que les enfants ne lisent plus, n'ont plus de rapport à l'écriture. Alors, j'ai l'impression que c'est pas vrai du tout, en fait. Les enfants écrivent beaucoup.
Les enfants aiment beaucoup écrire. Et j'ai vraiment une façon d'aborder l'écriture qui est peut-être ma façon idiote américaine, que ce soit facile. Moi, je veux les faire écrire, juste remplir des pages, libérer les bras. je dis aux maîtresses de faire des marathons d'écriture. En arrive en bas de page, on tourne la page, qu'on écrive d'abord. Il faut faire beaucoup. Et je fais des choses faciles. Bon, j'aime beaucoup le journal intime parce que c'est des choses qu'on sait. On peut remplir une page avec ce qu'on a fait hier. Yeah. Et ça marche. Écrivez 10 choses sur vous-même, mais comme un écrivain à la troisième personne, et j'explique ce que c'est la troisième personne, il, elle, alors il s'appelle, il aime, elle déteste, et alors j'ajoute au fur et à mesure des verbes. Et ils y vont, ils veulent pas s'arrêter.
Qu'est-ce que vous essayez de faire avec ces enfants, là?
Donner confiance en eux. Qu'ils aient confiance que... Moi, je vais pas comme écrivain, mais comme une pom-pom girl. Tu vois, ils disent une phrase, j'ai dit, c'est vachement bien, ça. Et ils sont tout fiers. C'est la première personne qui leur a dit que quelque chose qu'il ait fait. C'est bien. Mais moi, je suis une produite de l'éducation américaine où tu échoues lamentablement et on te dit, good try. Tu as bien essayé. Et tu te sens victorieuse parce que tu as essayé. En France, mes enfants, je revenais de l'école. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qu'on t'a dit? On est nul, on est des médiocres. Quelle éducation c'est? Comment on s'en sort avec ça?
Vous dites qu'il faudrait que les maîtresses fassent des marathons d'écriture. Et vous le disiez quand vous racontiez votre enfance, vous aimiez faire même des lignes d'écriture, ce rapport physique à la main. Vous avez intégré dans vos livres toute la question de la mutation vers le numérique et aussi la fascination des enfants pour les écrans, pour les jeux vidéo, la peur de la part des parents de cette espèce de défiance envers les écrans. Vous avez écrit un roman qui s'appelle Imami, Imami à l'américaine, où justement des parents envoient leur fils de 14 ans chez sa grand-mère qui n'a pas internet, qui n'a pas d'ordinateur. Évidemment, ça va bouleverser leur vie à tous les deux. Sur cette question des écrans, des jeux vidéo, vous le dites, vos parents, les parents viennent vous voir parfois dans les salons en disant comment je fais pour que mon enfant lise contre justement les écrans. Est-ce que c'est un combat légitime pour vous, ça?
La première question que je pose aux parents, c'est est-ce que vous lisez? Est-ce qu'il a un modèle de quelqu'un qui lit devant lui? Et évidemment, non. Oh, c'est toujours, oh, j'ai pas le temps. Qui lit? Je me demande qui lit. Et oui, c'est une grande préoccupation. C'est une grande... dans l'immédiat autour de moi, Noam et Yona, ma grande petite-fille, sont très performants. Ils se sont calmés avec les écrans. Emma est le grand expert de toutes les séries qui sortent. C'est ma conseillère en ce moment. On regarde Designated Survivor et on fait la course, elle et moi, qui finit la première saison, la deuxième saison. Et c'est du binge-watching terrible. Elle est à la fac. Mais c'est surtout, je crois qu'elle passe 10 heures par jour devant l'écran. Oui, c'est une grande préoccupation pour moi.
Quelle place pour le livre quand on a tout ce temps et ces séries de bonne qualité? C'est une vraie question que vous vous posez, vous aussi. Vous n'êtes pas la seule.
Oui, oui. Et je cherche. Je voulais lancer un concours de trouver des moyens d'arrêter les écrans, d'empêcher les enfants d'aller devant les écrans. Et j'ai pas eu l'idée encore. Mais oui, c'est une très, très grande préoccupation. Et on sait pas ce que ça va donner. ça va donner autre chose. Peut-être ça va pas être si mauvais, après tout. Je vous ai dit que ma mère ne voulait pas que je lise. Elle trouvait ça une perte de temps. Il y a mieux à faire dans la vie. Et nous, c'est les écrans. Peut-être ça va faire une génération extraordinaire. Ma petite fille a un vrai sens de l'intrigue. Elle apprend quelque chose de toutes ces séries.
Je voudrais qu'on évoque quand même des personnalités importantes, puisqu'on parlait de la littérature jeunesse, qui sont avec vous dans les salons du livre de la jeunesse, à Montreuil, mais partout ailleurs, avec qui vous travaillez souvent, c'est les illustrateurs. Vous travaillez très souvent avec Serge Bloch, mais vous avez travaillé avec toute une foule de personnalités différentes sur la famille Trop de filles. Vous-même, vous dessinez, mais vous considérez que vous n'étiez pas assez bonne comme dessinatrice. Ces dessinateurs, vous avez quel type de rapport avec eux? Qu'est-ce que vous aimez dans un dessin?
La lecture du texte. Je me rappelle toujours de l'illustrateur qui n'a pas lu le texte et il a dessiné les gens complètement de travers. Un papa très chevelu alors qu'il était chauve. Il avait une île chauve au milieu de la tête. C'était une belle image et il l'a pas fait du tout. Mais des fois, je suis pas contente des illustrations. Et c'est l'éditeur qui fait le mariage. Je travaille de près avec une illustratrice qui vit à Nice, qui est aussi américaine, Teresa Braun. Elle a fait les illustrations pour l'agenda de l'apprenti écrivain. Et en ce moment, elle fait un dessin humoristique tous les jours sur Instagram à partir de mon journal intime. Et ça s'appelle Suzy Toon. Vous pouvez les voir sur Instagram, Teresa Braun, et c'est génial.
On va regarder ça. Merci Suzy Morgenstern, on se retrouve demain.
Avec plaisir, Zoé.
Vous retrouverez demain la suite de cet entretien de Zoé Sfez avec Suzy Morgenstern. À voix nue, prise de son Yvan Turc, réalisation Guillaume Baldi, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr.